Bonjour François Eckhall.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes le fondateur de Fipeco.fr. Je vous invite vraiment à aller voir Fipeco.fr. Et professeur d'éco à Paris 1. Dany Lang, bonjour.
Bonjour.
Enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris-Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie, Christian Proyot, bonjour.
Bonjour Nicolas Dose.
PDG de Micropole, président de la commission Mutations technologiques et impacts sociétaux du MEDEF. Je voudrais votre réaction, Dany Lang, à ce que nous dit Gabriel Attal dans sous toutes ses formes. C'est cette France laborieuse. Ils ont un peu le sentiment qu'ils l'ont oublié, la France laborieuse. Et c'est donc le tout début de la classe moyenne. On doit être à 1850-1900 euros de revenus par mois pour une personne seule. Et cela, à chaque fois qu'on annonce un chèque, fuel, énergie, peu importe, eh ben cette France-là a le sentiment qu'elle n'y a pas droit. Par contre, qu'elle le paye et qu'elle travaille sans jamais rien toucher pour ceux qui ne bossent pas. Il l'a dit comme ça. Il a d'ailleurs eu cette phrase, Gabriel Attal, qu'il n'a pas voulu commenter ni démentir d'ailleurs. Mais il dit, il y a ces gens qui ont le sentiment qu'on balance des canadaires d'argent public pour ceux qui ne bossent pas. Et le sentiment est réel, Dany, je pense.
Le sentiment est peut-être réel, mais c'est toujours un peu la même rhétorique qu'on oppose les pauvres à ceux qui sont un peu moins pauvres. Comme ça, on évite de reposer le véritable problème. Et une fois de plus, je l'ai posé plusieurs fois ici, Nicolas, c'est la répartition du revenu entre les salaires et les profits. On a la part des profits qui est de 9,2% plus élevée qu'en 1980, d'après les données de la Commission européenne. Je ne parle pas de Cheguevara.com ou non, les données Ameco de la Commission européenne. Alors, si on prend ça sur un peu plus long terme, on est quand même... si on prend le début des années 70, on est... autour de quand même 3-4% qui sont passés de la poche des salaires vers la poche des actionnaires. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les deux tiers des profits ne sont plus réinvestis dans les entreprises. On a un tiers qui est réinvesti, les deux autres tiers qui partent aux actionnaires. On oppose les pauvres ou un peu moins pauvres. Moi, je suis pas d'accord avec cette opposition-là. Moi, je serais pour qu'on revienne sur des rémunérations plus raisonnable pour les actionnaires et que ça aille effectivement dans la poche des salariés.
Bon, réaction François Eckhall par rapport à ce que... C'est une démonstration à laquelle on a souvent assisté de la part de Dany Lang, nous expliquant que
oui,
contrairement
mais
à...
Je vais tweeter ça parce que, non, mais je... parce que mais personne tweeter... ne me croit sur ces données, pourtant c'est les données de la Commission européenne,
Dany Lang,
c'est le site Ameco.
Dany Lang nous explique assez régulièrement que lorsqu'on dit qu'en France, le partage du profit ne s'est pas déformé depuis une 20 ou 25 ans au profit du capital et au détriment du travail, il nous dit que ça n'est pas
le
vrai.
Il y a que l'ANSES qui dit ça, le FMI et la Commission européenne.
Sur ce sujet-là,
sont les données auxquelles je me réfère.
Sur ce sujet-là, est-ce que vous avez, François Eckhall, un avis sur le partage du profit ?
Alors, pas spécialement sur le profit, mais plus généralement sur les inégalités. Mmh. Si on prend les données de l'OCDE ou de la Commission européenne, les mêmes données, ce qu'on voit, c'est que la France est un pays qui n'est pas particulièrement inégalitaire. Mmh. On est plutôt un peu plus inégalitaire que la moyenne. Contrairement à beaucoup de pays de l'OCDE, les inégalités n'ont pas beaucoup augmenté en France sur les 20 dernières années, contrairement donc à d'autres pays. Et si on est dans cette situation, c'est parce qu'on redistribue quand même beaucoup. Alors, on redistribue beaucoup monétairement, donc d'où en effet l'impression par certains peut-être qu'ils payent beaucoup et ils ne reçoivent pas beaucoup. Mais il faut pas oublier que ça, ces comparaisons, elles se font sur la base de la redistribution monétaire. C'est-à-dire d'un côté les impôts sur le revenu, etc., et de l'autre côté les prestations sociales, essentiellement sous conditions de ressources, les prestations familiales, les minima sociaux, etc. Mais il y a une autre forme de redistribution qui est beaucoup plus difficile en fait à estimer, mais pour lesquels il existe des travaux. Il y a eu des travaux de l'INSEE récemment et il y a eu des travaux de CDE il y a un peu plus longtemps. C'est la redistribution à travers les services publics.
C'est ça.
Et quand on prend en compte la redistribution à travers les services publics, les classes moyennes sont gagnantes. Elles sont très gagnantes parce qu'elles en profitent beaucoup. Et donc là, cette redistribution-là, elle est très forte. Alors là, elle est beaucoup plus importante. Enfin, elle se fait beaucoup plus, vraiment, des classes supérieures vers les classes moyennes ou les classes pauvres.
Mais là, vous y mettez donc ces fameuses classes moyennes qui ont le sentiment de déclassement.
En fait, ce que montrait, si je me souviens bien, mais de mémoire, ce que montrait les travaux d'INSEE, c'est qu'il y avait de la redistribution à peu près jusqu'au 7e décile. Voilà. Si on intégrait les services publics. Donc,
à
7e décile, on a la classe moyenne.
Mais je veux bien, alors, Christian Poyot, là, sur le partage capital-travail, on élargit considérablement le sujet. Mais sur ces gens qui ont le sentiment qu'ils sont ceux qui payent et qui ne touchent pas. mais qui ne vivent pas non plus très très bien parce qu'ils n'ont pas une rémunération astronomique. Repartez sur le sujet qui vous vient à l'esprit.
Je vais apporter un commentaire là-dessus, mais pour répondre, alors moi je peux mettre en avant des éléments économiques, je ne suis pas économiste au quotidien, mais enfin, à qui veut-on faire croire que la France est un pays inégalitaire en comparaison par rapport aux autres? Enfin, ça n'existe pas. Le taux de redistribution par rapport à nos comparables européens, américains, voilà, on est un pays qui est, dans lequel la taxation sur les entreprises, sur les gens les plus aisés, et il faut qu'il y en ait bien évidemment, est quasiment la plus forte. Donc bon, voilà, ça c'est un constat tout à fait simple. Après, sur ce sujet de Gabriel Attal, je vais reprendre une phrase qu'a dit Védrine il y a relativement peu de temps, je la trouve très bonne, qui est « la minorité qui est la plus délaissée, eh bien c'est la majorité en fait ». Et je pense que ça recouvre assez bien ce propos. C'est-à-dire que oui, effectivement, une majorité de nos concitoyens qui vivent de manière correcte, mais sans bien sûr avoir des moyens très importants. Et ceux-là, on n'en parle pas souvent, ou ils sont pas toujours mis en avant, ou on les aide peut-être effectivement un petit peu moins. Alors après, il y a toujours du ressenti. On sait très bien que le ressenti et la réalité, des fois, il y a un décalage qui peut exister. C'est vrai que sur le sujet des services publics sont très importants en France, il y a peut-être cet élément-là. Mais
et comme c'est pas monétaire, les services publics, c'est plus difficile à palper. Voilà.
On pourrait élargir le propos, mais je veux pas le faire là. On est tout le temps en train de parler effectivement de sujets spécifiques qui sont respectables et qu'il ne faut bien sûr pas laisser de côté. Mais c'est tout le temps des cas particuliers, des minorités, des sujets spécifiques. Ce sur quoi il faut travailler, je pense, en premier lieu, c'est effectivement la grande majorité des Français et essayer de leur apporter le maximum de bien-être, de sécurité, d'emploi, évidemment, pour qu'on ait un développement harmonieux du pays. Voilà. Donc, encore une fois, la majorité, je pense, n'est pas suffisamment prise en compte par nos politiques et par les médias.
Allez-y, Dany Lang. Après, je voudrais qu'on évoque.
Je voulais juste compléter ce que disait mon collègue, parce que c'est pas contradictoire. Effectivement, on a une déformation du partage de la valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelle la redistribution primaire. Mais quand on regarde la redistribution secondaire, c'est très vrai ce que vous disiez. C'est-à-dire, quand on regarde le fameux indice de Gini, qui nous permet de mesurer les inégalités, en France, on est à peu près aussi inégalitaire qu'aux États-Unis, au Japon, avant redistribution. Ce serait extrêmement violent si on n'avait pas ce système redistributif. Et après redistribution, on tombe à des niveaux plus civilisés.
On est à peu près à 0,2-0,3 sur Gini. Plus on est proche de zéro, plus on est égalitaire.
Oui, voilà, on tombe à 0,31, ce qui est à peu près le niveau de l'Allemagne après redistribution.
Si on est à 1,
d'autres
c'est
pays européens, on est un peu plus inégalitaire que les pays du Nord. Mais c'est vrai que ce que disait monsieur, il y a la redistribution jusqu'au 7e décile. Et c'est vrai aussi que les services publics, c'est très difficile à estimer. Et que c'est plutôt les gens qui font partie de ces classes moyennes qui soi-disant sont délaissés, qui en bénéficient. Donc, j'abonde dans votre sens, de ce point de vue-là. Mais les deux ne sont pas incompatibles, vous voyez. Mais moi, je pense que aujourd'hui, la question primordiale, c'est la redistribution primaire du revenu. Il faut juste accepter, dans le contexte actuel, juste de rééquilibrer un peu le partage de la valeur.
Est-ce que vous estimez que les profits en France sont moins taxés que dans les autres pays?
Mais c'est pas la question.
Mais on est dans un monde ouvert, on est dans un monde de concurrence.
C'est pas la question.
Si vous taxez les profits et les entreprises plus que nos concurrents, eh bien, les capitaux vont
ailleurs. Monsieur, c'est un argument qu'on entend depuis des années.
Oui, c'est une réalité.
Et qui nous a mené dans une situation.
Ah, dans une situation, l'industrie française est en retard par rapport à tous les autres pays. On a des impôts de production beaucoup plus forts. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est la
réalité. Parce que, selon vous, l'investissement dépend du niveau de taxation.
Si vous êtes
ce que disent les études empiriques.
Bah oui, mais faut peut-être aller sur le terrain de temps en temps. Voyez, si vous êtes plus taxé dans un pays, vous y allez moins que dans un autre, vous êtes moins taxé. Regardez ce qui se passe en ce moment sur l'énergie.
Mais quand vous regardez les déterminants de l'investissement, généralement,
regardez le niveau de l'industrie française aujourd'hui par rapport à leurs concurrents.
Pas ensemble. Si on admet,
les travaux scientifiques un peu sérieux, je suis désolé, il y a beaucoup de paramètres qui déterminent l'investissement, mais la taxation, soit n'est pas significative, soit une significativité très faible par rapport à d'autres composantes comme la demande, la qualité des infrastructures, la qualité de la main-d'œuvre, etc.
Je sais donc qu'il y a. Allez-y, pardon.
J'ai beaucoup de respect pour les travaux scientifiques, mais moi je regarde le quotidien. Vous voyez, moi je suis les pieds dans la glaise, dans la réalité de tous les jours. Je suis pas en train de commenter, je suis en train de faire. Et quand vous regardez ce que font les entreprises françaises, aujourd'hui, elles sont dans une situation plus compliquée que leurs confrères européens et américains. C'est une réalité. Voilà, point. Vous regardez le nombre d'entreprises qui existent. La rentabilité moyenne des entreprises françaises, elle est plus faible qu'ailleurs. Voilà.
On ne va pas avoir le débat pour savoir si, effectivement, le partage de la valeur ajoutée est resté stable ou s'est déformé. Mais si on imagine... Actons ça, Dany Lang. La solution...
Merci quand même les données de la Commission européenne.
Oui, j'entends. Mais la solution... pour rétablir une situation qui serait plus satisfaisante? Ce serait quoi?
Déjà, on commence par revaloriser le SMIC de manière significative, ce qui n'a pas été fait, à ma connaissance, significativement. C'était 95 Chirac.
C'est les coups de pouce auxquels on parle. Parce que là, le SMIC est indexé sur l'inflation.
Un coup de pouce, j'aimerais quand même rappeler que quand il a été créé, ça permettait à une famille de vivre. Aujourd'hui, un individu au SMIC a du mal à joindre les deux bouts. Donc, parce que quand on revalorise le SMIC, il y a tous les salaires qui sont jusqu'à 1,6 fois le SMIC qui augmente.
Donc on commence jusqu'à 1,3, c'est oui. Après c'est moins évident.
On verse un tout petit peu moins aux actionnaires et surtout on met en place des incitations fiscales pour que les profits soient réinvestis plutôt que distribués.
Qu'est-ce que vous en pensez de la question du SMIC, François Eckhall, et de l'idée de créer des niches fiscales pour inciter à l'investissement?
Si on fait des comparaisons internationales, il faut bien avoir en tête que les niveaux de vie ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Oui. Donc la bonne comparaison, c'est le SMIC par rapport au salaire médian ou au salaire moyen. Et quand on fait cette comparaison, la France est plutôt en tête. Alors je ne dirais pas, là, je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai plus les chiffres, si on est les premiers, les deuxièmes ou les troisièmes de l'Union européenne.
Je crois qu'on est à 68%
mais
du médian.
on n'est pas loin. En tout cas, si on n'est pas dans le trio de tête, on n'en est pas très loin.
Hein. Yeah, oui.
Et ce qui se passe, c'est que depuis très longtemps, depuis une 20-30 ans, on remonte quand même le SMIC pour se retrouver dans cette situation, relativement par rapport aux autres pays. Et pour éviter que ça coûte trop cher aux entreprises sous forme de coûts, coûts de travail trop élevés, eh bien, on fait des allègements de cotisations sociales patronales. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est à zéro de cotisations patronales. Alors, on a trouvé autre chose, c'est-à-dire, comme on ne peut pas aller plus loin, voilà, donc on a trouvé la prime d'activité, ce genre de choses, voilà. On essaye de trouver d'autres sommes, mais ce n'est pas évident. Parce que la prime d'activité, ça coûte cher aussi, c'est en termes de finances publiques.
Elle avait été très rehaussée après les gilets jaunes, de 90 euros par mois.
L'idée de la prime d'activité, c'est de permettre à ceux qui travaillent au niveau du SMIC, etc., d'avoir quand même une rémunération un peu plus élevée, sans pour autant à remonter le SMIC lui-même, parce qu'on ne peut plus le compenser pour les entreprises par des allègements de cotisations, sachant qu'il n'y a plus de cotisations au niveau du SMIC. Voilà, on est dans l'impasse, mais dans une situation, je répète quand même, où on a un niveau du SMIC, on peut trouver qu'il est insuffisant pour travailler, bien sûr, on trouvera toujours qu'il est insuffisant, voilà. Mais par rapport aux autres pays, si on prend comme référence les autres pays, non, on est plutôt bien placé.
Christian Poyot, on faisait la réflexion avec Erwan Tison de l'Institut Sapiens hier. On a vu toute la panoplie des aides qui existent, chèque énergie, avec un abondement exceptionnel de 100 à 200 euros supplémentaires par rapport au chèque énergie de base, le chèque fuel de 200 euros, cumulable avec le chèque énergie, le bouclier tarifaire pour tous les Français en 2023, la ristourne sur les carburants qui a été abaissée mais qui est encore en vigueur, le futur bouclier carburant pour les gens qui travaillent et qui roulent beaucoup. Hier, on annonçait le chèque bois pour les gens qui se chauffent au bois. Il y a quand même un moment où on est obligé de constater qu'on a une partie du pays qui n'a pas assez pour vivre avec son salaire.
Non mais, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans une situation très compliquée et qu'il faut aider? Il n'y a pas de débat par rapport à ça. Alors, sur ce sujet, première remarque, il faut essayer de cibler au maximum, d'accord? Donc là, on commence à sortir de cette aide, c'est plus 30 centimes, c'est 15 centimes sur le carburant.
10 depuis mi-novembre, oui.
Excusez-moi. Ok, très bien, mais encore une fois, tout le monde en a profité, y compris peut-être nous-mêmes autour de cette table, où a priori, on n'est pas les premiers concernés. Donc il faut cibler. Aider les gens les plus modestes sur ce sujet-là, et notamment, c'est vrai, les gens qui sont en région, qui utilisent beaucoup leur véhicule, qui peuvent pas prendre de vélo ou quoi que ce soit, il faut le faire, bien sûr. Mais on raisonne de manière beaucoup trop large. Et puis, deuxième remarque, et je vais reprendre ma casquette, évidemment, entrepreneur, c'est bien l'aider les particuliers, mais l'aide aux entreprises par rapport aux autres pays européens, elle est ridicule. Elle est ridicule. Regardons l'Allemagne. Eux, ils ont essayé d'agir sur les deux pans. Nous, on a déjà agi sur les personnes physiques. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais très bien. Mais sur les entreprises, c'est la portion congrue. Mais on voit ce qui est en train de se passer, là, si vous voulez. Vous avez lu les derniers articles des journaux, etc.
Les jours, je vois les signaux d'alarme qui, dans tous les secteurs.
Voilà, les entreprises qui vont être dans une situation très compliquée à fermer ou qui vont exporter leur production. C'est ça, la réalité. Donc, est-ce qu'on pourrait, une fois pour toutes, regarder un peu tous les sujets en même temps? Et encore une fois, les aides aux entreprises sont sont pas du tout au niveau. Alors ça va pas se traduire tout de suite parce qu'effectivement il n'y a pas de défilé dans la rue, mais quand il y aura des entreprises qui fermeront, le chômage qui repartira, etc., on sera dans quelle situation? Voilà, donc ça là-dessus on a fait preuve de démagogie.
Je regardais hier une analyse de Xerfi Canal d'Olivier Passé qui considérait que c'était compliqué pour les économistes d'expliquer pourquoi la dynamique de l'emploi était toujours là, mais il avait quand même la certitude qu'en 2023 les choses allaient se dégrader.
Et oui.
On en fait trop pour l'offre, pour la demande et pas assez pour l'offre, Dany Long, vous croyez?
Non, bah, je dirais pas ça, parce qu'on a fait des politiques d'offre depuis des années. Le balancier s'est un tout petit peu rééquilibré. Mais moi, une fois de plus, hein, je pense que mettre des pansements de tous les côtés, c'est bien gentil, mais à un moment, il faut remettre les choses sur la table et reposer ce problème de la répartition primaire du revenu entre salaire et profit. Après, ça suffit pas, évidemment. Et puis, effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont se retrouver en difficulté, notamment celles qui ont... Alors là, je vais faire mon choupéterien, mais il y avait un certain nombre de canards boiteux qui ont bénéficié d'une survie artificielle.
Oui, ça va pas durer.
Qui maintenant sont en train de rendre l'âme. Mais ça, c'est parce qu'on les a artificiellement, on leur a artificiellement permis de survivre avec les prêts garantis par l'État. Donc moi, je suis assez inquiet de cette situation parce que au moment où elles vont faire défaut, et ça commence, hein, les tribunaux de commerce commencent à avoir de plus en plus de travail, au moment où elles vont faire défaut, elles risquent d'entraîner avec elles des entreprises qui, elles, n'étaient pas dans des situations qui étaient dans des situations plus solides avant ça, et avec les prêts garantis par l'État, on a fait augmenter la dette privée. Or, c'est la première cause de crise économique, les niveaux de dette privée par rapport à la richesse.
Mais
je suis très inquiet par rapport à ça.
Pour poursuivre ce que dit Christian Poyot, on voit qu'effectivement, ce qui est mobilisé pour 2023 pour les entreprises est quand même très, très en dessous de ce qu'on aurait pu imaginer. Le problème, c'est qu'on risque de voir des entreprises parfaitement viables ne pas tenir le coup cette année-là à cause de l'explosion du choc énergétique.
Oui.
Et est-ce qu'on a eu raison de payer autant depuis 2020 pour finalement lâcher prise au moment où les choses vont se dénouer?
Oui, mais j'entends bien ce que vous dites. Il y a un moment où on n'aurait pas dû faire de prêts garantis par l'État.
Ah,
on aurait dû aider directement les entreprises parce que c'était se garantir de se retrouver dans une situation où la dette privée gonfle et où les entreprises qui vont faire faillite, qui devaient faire faillite avant la crise du Covid, risquent d'entraîner avec elles d'autres entreprises qui, elles, étaient saines. Et maintenant, effectivement, on se retrouve dans une situation où on paye notre absence de stratégie industrielle en matière d'énergie. Ça fait un certain nombre d'années que je dis, mais je suis l'un des seuls, maintenant ça commence à devenir audible, que je dis qu'on n'a pas de stratégie industrielle européenne et que la concurrence, ce n'est pas une stratégie industrielle. Ben maintenant, on commence à le payer, et puis on commence à voir quels sont les effets de cette absence de stratégie industrielle en termes énergétiques. La concurrence en termes énergétiques, ça ne marche pas bien, on le sait, on a du recul maintenant, et pourtant on a voulu faire ça. Donc maintenant, il est temps de changer de fusil d'épaule. C'est ce qu'on paye.
On marque une pause, et d'ailleurs, phénomène d'actualité tout à fait concret pour illustrer ce que vous dites, la centrale de Saint-Avold, qui était fermée depuis mars, a repris du service hier pour fournir des kilowattheures carbonés au charbon. Une centrale au charbon, c'est 80% de CO2 en plus par rapport à une centrale à gaz. Marque une pause, je vous demanderai dans un instant ce que vous pensez de... Il a quand même osé franchir le Rubicon, Philippe Martin, de l'école de Sciences Po, le jeudi dernier, en disant que la situation et le coût de ce choc énergétique, entre 3 et 4 points de PIB, hein, pas loin de 100 milliards d'euros, justifierait un impôt exceptionnel sur les plus riches, un impôt sur les personnes physiques. On marque une pause et puis on s'intéressera à la persistance de l'inflation, nous dit Christine Lagarde.